tout de suite, c'est le nouveau rendez-vous et c'est lundi. Alors voici ce qui vous attend toute cette semaine, c'est la bande-annonce.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Des chaussettes de soie avec un veston de tweed.
Oui, j'aime la soie.
D'accord, mais alors pas de tweed.
Je peux faire plein de conneries, vraiment plein de conneries, mais ça, non.
Je ne travaille jamais, vous savez, le travail, c'est quand vous faites une chose chiante pour gagner votre vie, ça c'est le travail. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, ça veut dire des collections, des livres et des photos.
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
La règle de l'art, c'est de tout se permettre. L'art n'a pas de leçon de morale à recevoir, il n'a pas non plus à en donner.
Il n'y a pas de politique ici, là on est jaune.
Je ne sais pas où tout ça va mener, mais c'est pas très rassurant.
À partir de maintenant, ça compte pas. Il n'y a plus de temps. Plus rien.
Bonne adresse, victoire de l'artiste féminine. Bravo.
C'est incroyable de pouvoir recevoir ça, parce que ça veut dire être entendu, et je souhaite ça à tout le monde.
C'est quelque chose pour vous. Un poste d'entraîneur dans un petit club.
Je savais que j'étais grillé, mais à ce point.
Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Je me demande pourquoi moi si con, choisi par toi si pur. Mystère de l'amour.
Ils sont tout jeunes, ils écrivent en couple. Capucine et Simon Johanna seront nos invités mercredi avec Lou Doyon en live. Un hommage à Karl Lagerfeld, ce sera demain. Jeanne Adède en live, double victoire de la musique, encore demain. Pierre Arditi, jeudi. Et j'en passe, tout de suite. Nos invités sont Nani Moretti et Mohamed Hamidi.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est notre énervé du soir, le vôtre aussi. Nous sommes le lundi 25 février, on est très heureux de vous retrouver. Cela à double titre puisque vous pouvez nous écouter dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et bien sûr en podcast, ou alors à l'antenne, 22h minuit comme tout le monde. Ce soir, Nani Moretti est de retour au cinéma avec un pas de côté, un documentaire engagé, Santiago Italia, qui revient sur le putsch de Pinochet au Chili et sur les jeunes Chiliens contestataires qui se sont exilés en Italie. L'occasion de revenir avec lui sur l'actualité, sur les gilets jaunes et l'affaire Cesare Battisti. Et les positions de Nani Moretti sont très claires. On a rencontré le réalisateur de passage à Paris. Cinéma toujours avec Mohamed Hamidi pour son nouveau film, Jusqu'ici tout va bien, une comédie pure sur une petite entreprise de com qui, pour des raisons fiscales, doit s'installer à La Courneuve. Choc des cultures entre bobos parisiens et le 9-3, une leçon hilarante de vivre ensemble. Et puis, rendez-vous bien sûr avec vous, Soro Solo, pour l'Afrique en solo, la chronique, puisqu'on est lundi. Ce soir, un chanteur camerounais, Gino Simpson, c'est ça ?
C'est ça. Et Gino Simpson, il arrive avec son 8e album, Echo Chamber, et ce sera une avant-première aujourd'hui, puisque son album sortira le 22 mars.
Et puis dans le NRV La Suite ce soir, Gilets jaunes, acte 3 pour nous, acte 15 pour eux, Christophe Bourseiller.
Oui, alors on va voir si le mouvement s'essouffle et si du coup nos invités peut-être s'essoufflent. Peut-être qu'on atteindra enfin une sorte de sérénité, on pourra en parler tranquillement, approfondir le sujet des Gilets jaunes.
Enfin,
on verra.
Vu les invités, je ne crois pas que ça soit très tranquille.
On verra si c'est possible. On verra, n'anticipons pas, alors on ne sait pas de quoi demain est fait. En tout cas, les invités, outre vous et moi, il y aura Thierry-Paul Valette qui est un Gilet jaune de la première heure. Il sera escorté, si je puis dire, par Yves Baumgartner, prof de philo, mais soutien très actif des Gilets jaunes. Dans le même camp, entre quel, il y a Gérard Mordi, hein, oui, le cinéaste, écrivain, il vient de sortir Ces femmes-là, un roman de science-fiction sociale. Donc on est tout à fait dans la même idée.
Très Gilets jaunes aussi.
Très Gilets jaunes aussi. Et en face, André Wilms, grand acteur, il est en tournée avec La fin de l'homme rouge. Et lui, par contre, les Gilets jaunes, il est vraiment de contre, et non pas tout contre. Et puis enfin, Maud Tabachnik, écrivain, auteur de romans noirs, ou pas noirs d'ailleurs, ça dépend des fois, mais en tout cas, elle aussi très hostile aux Gilets jaunes.
Le NRV, allez, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
El candidato Salvador Allende.
Le nouveau rendez-vous.
Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera.
Sur France Inter.
Et oui, c'est la voix de Salvador Allende, le président chilien renversé par Augusto Pinochet, qui ouvre ce plateau Santiago Italia. C'est le titre du nouveau film de Nanni Moretti. Pas de fiction cette fois, mais un documentaire qui revient sur ce qui a uni l'Italie et le Chili dans les années 70 pendant la dictature Pinochet. Nanni Moretti a composé son film avec une série d'entretiens. Il a rencontré des Italiens d'origine chilienne. Ils avaient 20 ans dans les années 70. Ils ont milité dans leur pays contre la dictature et certains se sont réfugiés à l'ambassade d'Italie à l'époque, à Santiago, et ont pu s'exiler en Italie. Ils sont écrivains, cinéastes, entrepreneurs, traducteurs. Le film retrouve l'histoire d'une Italie terre d'accueil, ce qui permet de dénoncer ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Nanni Moretti faisait au Chili pour avoir eu envie de faire ce film documentaire? Nanni Moretti.
Quand on m'invite un peu en giro per il mondo...
On m'invite dans le monde entier, mais généralement, je refuse toujours. Je sais que je me trompe en faisant cela, mais je suis paresseux et sédentaire. Mais bon, cette fois-ci, j'ai voulu dire oui pour participer à une conférence à l'université de Santiago.
Et
donc, je me suis rendu à Santiago il y a un an et demi.
Et
l'ambassadeur italien au Chili m'a raconté une histoire. Une histoire que je connaissais, oui, bien sûr, mais qu'en tout temps j'avais complètement oublié. Parce que beaucoup de temps s'était écoulé. Et alors je me suis dit, pourquoi pas? C'est une belle histoire italienne. Peut-être vaudrait-il la peine de la raconter. Je suis rentré en Italie. Et j'ai commencé à tourner les premières interviews. Mais à l'époque, j'avais juste deux, trois personnes à interviewer. Et puis, petit à petit, le travail s'est fait, s'est clarifié pendant que je le faisais.
Qui ont été vos premiers interlocuteurs? Parce que parmi les témoins, il y a réalisateurs, musiciens, artisans, entrepreneurs... Traducteur.
Les premières personnes que j'ai interviewées, c'est les deux diplomates. Les deux diplomates italiens qui, pendant l'absence de l'ambassadeur italien, qui en septembre 1973 n'était pas à Santiago, eh bien, ces deux diplomates qui étaient jeunes à l'époque, avait décidé d'accueillir ces centaines et centaines de demandeurs d'asile.
Poi sapevo che l'addetto culturale dell'ambasciata.
Et puis je savais aussi que l'attaché culturel de l'ambassade du Chili en Italie était passé par l'ambassade italienne à Santiago quand il était jeune. Alors je l'ai interviewé.
Poi piano piano ogni intervistato.
Et puis petit à petit. Chaque interviewé m'a parlé d'autres personnes.
Le persone da intervistare da due,
qui avaient été à l'ambassade aussi, et puis les personnes, au début elles étaient deux, 40. Après cinq et enfin 40.
Alors vous avez aussi interviewé deux militaires, notamment Iturriaga, le tortionnaire en prison, qui lui ne renie rien. Je me demandais quel est votre regard sur sa propre parole, puisque c'est la seule fois qu'on vous voit à l'écran dans ce documentaire. On entend votre voix, on entend les questions, les remarques, mais jamais on ne vous voit. Et face à ce militaire, le tortionnaire, vous apparaissez.
Les deux militaires que j'ai interviewés m'agaçaient, m'énervaient. Mais j'essayais de faire en sorte que prenne le dessus mon rôle de réalisateur sur ma conscience de citoyen. J'étais donc un réalisateur qui devait réaliser une interview et qui devait rentrer chez lui avec un résultat. Mais la phrase que je lui dis, je ne suis pas impartial, c'était pas prévu, mais pas du tout. L'interview était déjà terminée. Mais il a commencé à m'adresser la parole. Et moi, donc à la volée, j'ai dit à la chef-op de continuer le tournage, de ne pas éteindre la caméra.
per caso.
E dunque c'était un pur hasard.
Quella frase.
Que cette frase a été captée.
È diventata, io non lo sapevo mentre montavo il film.
Et pendant le montage, je ne le savais pas. Je n'aurais pas imaginé qu'elle deviendrait la phrase symbole du film.
On va retrouver Nanni Moretti dans quelques instants, mais tout de suite, celle qui a remis en lumière la musique populaire de son pays, le Chili, Violeta Parra, dans le NRV.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Gracias a la vida, chantée par la John Baez chilienne Violeta Parra. Retour au Chili des années 70, tout de suite avec Nanni Moretti pour son nouveau film Santiago Italia, qui revient sur le putsch de Pinochet et l'exil de jeunes Chiliens qui ont fui le régime dictatorial et qui vont être accueillis en Italie. Alors avec ce film documentaire, Nanni Moretti parle de cette Italie qui s'est engagée auprès des Chiliens à l'époque. On voit des images d'archives, des prises de parole d'acteurs en Italie en faveur du mouvement comme Gian Maria Volonté, on y voit des manifestations. À l'époque, Nanni Moretti avait 19 ans ou 20 ans. Je lui ai demandé s'il faisait partie de ces manifs. Nanni Moretti.
Exactement 20
ans. J'avais 20 ans, jour pour jour. Je suis né en août 53. Et donc, à l'époque du coup d'État de Pinochet, j'avais exactement 20 ans. Oui, j'ai participé à des manifestations. Mais le Chili d'Allende était très important pour l'Italie du début des années 70.
Il Partito Comunista Italiano, con molta fatica,
le Parti Communiste Italien, péniblement et très lentement, peut-être trop lentement, était en train de s'émanciper de la dépendance vis-à-vis de l'URSS. Et donc la gauche italienne regardait avec beaucoup d'attention à l'expérience démocratique d'Allende. Et comme le dit une des personnes interviewées, pour la première fois, la gauche arrivait au pouvoir, non pas par les armes, mais par le vote. Et donc l'Italie regardait avec beaucoup d'attention à ce qui se passait au Chili. Et puis il y avait aussi des similitudes. Dans les deux pays, il y avait la démocratie chrétienne, le Parti communiste, le Parti socialiste, les radicaux, les catholiques de gauche, la gauche révolutionnaire, mais qui au Chili était révolutionnaire pour de bon. Et donc on se sentait très proche du Chili. Et donc le coup d'État de Pinochet a ému très fortement.
Quel giorno, l'11 settembre
73. Ce jour-là, le 11 septembre 73,
il gruppo musicale degli Intilimani,
le groupe des Intilimani était à Rome.
E aveva quella sera un concerto.
Et ce jour-là, ce soir-là, devait tenir un concert.
Naturalmente quel concerto divenne improvvisamente.
Et naturellement, ce concert est devenu soudainement quelque chose d'autre.
Vous posez une question à un de vos témoins qui m'a troublé. Et d'ailleurs, lui-même est troublé dans sa réponse. Vous lui posez cette question. Comment regardez-vous vos années de militantisme? C'est une question que j'avais envie de vous poser.
Ma io guardi, la mia militanza l'ho messa in discussione.
Mon militantisme, subito. Je l'ai tout de suite mis en question.
Il mio primo cortometraggio,
mon premier court-métrage,
la bellezza di 46
qui a
anni,
maintenant 46 ans.
Già nel mio primo cortometraggio che si chiamava,
eh bien,
La sconfitta,
déjà dans ce court-métrage qui avait pour titre La défaite,
prendevo in giro la militanza,
moi je
di
me
un
moquais du militantisme d'un jeune gauchiste
interprétato da me,
que j'interprétais moi-même.
Quindi io ho sempre avuto un rapporto interno esterno.
Donc j'ai toujours eu une relation intérieure et en même temps extérieure avec le militantisme.
E sono disincantato fin da quando avevo 20 anni.
Et je suis désenchanté depuis que j'avais 20 ans.
Quindi presto, prestissimo, ho abbandonato.
Et donc tôt,
très militanza
tôt, j'ai abandonné, ecco, le militantisme actif.
Et subito ho cominciato a prendere in giro me stesso.
Et j'ai tout de suite commencé à me moquer de moi-même.
Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans votre militantisme?
Ho abbandonato la pallanuoto.
J'ai abbandonné le waterpolo.
Quando andavo a scuola.
Quand j'étais à l'école.
E ho cominciato a fare politica.
Et j'ai commencé à m'occuper de politique.
Ho smesso prestissimo di fare
Après,
politica.
Très vite, j'ai arrêté la politique.
E ho cominciato a fare cinema.
Et j'ai commencé à faire du cinéma.
Mi sembrava che l'ideologia.
J'avais l'impression que l'idéologie.
Invece che un modo per leggere la realtà,
au lieu d'être une manière de comprendre la réalité, c'était plutôt une manière de cacher la réalité.
Ecco.
Voilà.
L'Italie d'aujourd'hui, c'est celle de Salvini, de Giuseppe Conte. Quelle est votre place ? Je vous pose cette question parce que je me souviens d'une phrase dans Mia Madre qui revenait souvent, c'est « Je n'y comprends plus rien ». Vous comprenez un peu mieux aujourd'hui ?
Des gilets jaunes, non.
Si la question concerne les gilets jaunes, la réponse est non.
Non capisco cosa, cosa sono,
je ne comprends pas cosa vogliono. Ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent.
Per quanto riguarda l'Italia,
en ce qui concerne l'Italie,
diciamo che il populismo di Berlusconi,
on peut dire que le populisme de Berlusconi
a aperto la strada al populismo
a di ouvert Salvini. Le chemin au populisme de Salvini.
Il populismo di Salvini è
figlio le populisme di de Matteo Salvini est le fruit de celui de Berlusconi.
C'è una certa continuità.
Il y a une certaine continuité.
Alle volte tutte e due hanno un atteggiamento per cui il
parfois,
fatto di essere stati
les deux ont une attitude, popolo, la même attitude, c'est-à-dire que le fait qu'ils ont été élus par le peuple
li pone al di sopra delle
les
leggi.
Met au-dessus des lois.
C'è una frase identica.
Ils ont prononcé une phrase identique.
Di Berlusconi anni fa e di Salvini oggi.
Berlusconi il y a quelque temps et Salvini aujourd'hui.
Nell'attacco ai magistrati.
Lorsqu'ils attaquent la magistrature.
Io sono stato eletto dal popolo.
Ils disent, moi j'étais élu du peuple.
Loro non sono stati eletti
j'étais
da nessuno.
J'étais élu par le peuple. Eux, ils ne sont pas élus.
Se vogliono fare politica.
Les magistrats, personne ne les a
si
élus.
Si candidino alle elezioni.
S'ils veulent s'occuper de politique. Qu'ils entrent dans le jeu politique, qu'ils deviennent candidats.
Et questo è proprio non capire nulla.
Et cela signifie qu'ils ne comprennent rien de la séparation des pouvoirs de l'État.
Quindi c'è una certa continuità tra
i due personaggi. Et
donc
il y a une certaine continuité entre ces deux personnages.
Pourquoi tout de suite vous êtes venu sur les gilets jaunes alors que ma question concernait en effet l'Italie? Vous avez envie d'en parler, manifestement.
Parce que vous m'avez demandé si je comprenais quelque chose. Alors moi, je voulais juste faire un préalable en vous disant que je ne comprends pas ce phénomène. Je ne comprends pas bien ce phénomène. Mais probablement, je ne suis qu'un vieux truc qui ne voit la réalité qu'à travers des lunettes d'il y a un siècle.
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, en fait, dans les gilets jaunes ? Qui est très difficile à comprendre d'ailleurs, parce que personne n'y comprend rien, eux non plus.
Ben voilà, justement.
Il y a déjà eu des documentaires dans votre parcours, assez peu. Chaque fois qu'il y a documentaire, qu'est-ce qui motive ce cinéma-là, pour vous ?
La curiosité.
La curiosité.
30 anni fa, ho fatto
il y a 30 ans,
la cosa
j'avais
sulla
réalisé
fine
un documentaire, La Cosa, sur la fin du Parti communiste italien.
Et... ancora prima di voler raccontare
e avant même de vouloir raconter quelque chose au spectateur,
io volevo capire che cosa
moi,
stava succedendo.
J'avais envie de comprendre ce qui se passait.
Così anche in questa occasione io
e là, une fois encore, avant même de raconter une histoire au spectateur,
io la volevo raccontare
je voulais
a me stesso.
La raconter à moi-même.
Volevo saperne qualcosa di più.
J'avais envie d'en savoir plus.
Et non c'era una sceneggiatura.
Et il n'y avait pas de scénario.
Et nemmeno una scaletta.
Ni même de déroulé du film.
Alors justement, il est question du Chili de ces années-là, l'âge d'or avec Allende, la fête perpétuelle, c'est ce que racontent d'ailleurs les témoins, pour les ouvriers, pour les paysans, pour les intellectuels, la conspiration de la droite, de la presse, les États-Unis pour faire chuter Allende, qui menace les intérêts, la dictature de Pinochet, les séances de torture, des choses qu'on connaissait déjà. Vous, qu'est-ce que vous avez appris de plus ?
Bah, innanzitutto, così, fare un po' un ogni tanto un riepilogo.
D'abord, de temps en temps, de faire une sorte de synthèse des moments importants de l'histoire, c'est pas mauvais.
Et quello è uno snodo.
Et là, c'est un nœud important de l'histoire.
Insomma, nella storia della democrazia
dans l'histoire
in Sud America,
de la démocratie, de l'Amérique du Sud, du monde.
C'è un esperimento originale.
Il s'agit d'une expérience originale
da parte di Salvador Allende,
menée par Salvador Allende.
Un governo che non assomiglia a nessuno.
Il s'agit
nel
d'un
mondo.
Gouvernement qui ne ressemble à aucun autre dans le monde.
C'è il ruolo determinante degli Stati Uniti.
Il y a le rôle déterminant des États-Unis.
La violenza con cui
il y a la violence
un sogno democratico.
Qui brise un rêve démocratique.
Quindi perché no? Perché non ricordare quel
pourquoi
momento?
Pas? Pourquoi pas ne pas rappeler ce moment-là?
Poi dopo, una volta che io ho finito il film, una volta che il film l'ho montato.
Après avoir terminé le film, après avoir monté le film.
Ho capito.
J'ai compris.
Perché ci tenevo tanto
j'ai compris
a raccontare questa
pourquoi
storia.
J'y tenais à ce point de raconter cette histoire. Je l'ai compris après coup.
Ci tenevo tanto a raccontare questa
je
storia
tenais beaucoup
di accoglienza
à raconter cette histoire sur l'accueil.
Perché ora in Italia
parce que aujourd'hui en Italie une grande partie de la société
è andato in direzione opposta,
a pris un chemin opposé aux valeurs de l'accueil et de la solidarité
et de la compassion et curiosité
et de la compassion et de la curiosité envers autrui.
Quindi il perché io ci tenessi tanto a raccontare questa storia.
Pourquoi je tenais à ce point à raconter cette histoire? Je l'ai compris une fois le travail terminé.
Comment le film sur le Chili a été perçu en Italie?
Quando io ho cominciato a girare
lorsque
il mio film,
j'ai commencé le tournage.
La situazione politica e sociale.
La situation politique et sociale en Italie
diversa.
Était différente.
Ora è cambiata.
Maintenant elle a changé.
Il film acquista non un significato et le film diverso,
a però donc
acquista un significato acquis, più forte.
Non pas un sens différent, mais un sens oggi, plus fort parce qu'il sort aujourd'hui.
In questa Italia, in questa Europa.
Dans cette Italie et dans cette Europe.
Beh, devo dire, quelli che l'hanno visto. Che sono più di quelli che io
ceux qui l'ont
pensassi,
vu et qui sont plus nombreux que ce que je n'imaginais au départ
molto colpiti,
ont été
molto commossi,
très marqués, très touchés.
Ha prevalso la commozione,
ce qui a prévalu était l'émotion,
la rabbia,
la colère,
la
tristesse,
però in qualcuno anche
mais
la speranza,
aussi chez quelqu'un de l'espoir.
Per quello che siamo stati,
l'espoir pour ce qu'on a été.
Et que forse
et pour ceux qu'on pourra peut-être recommencer à être.
Une question aussi sur quelque chose qui se passe aujourd'hui en Italie. Un commentaire peut-être sur la situation de Cesare Battisti, arrêté en Bolivie et extradé vers l'Italie. Quelle est votre position?
Il suo ritorno in Italia doveva succedere già tanti anni fa.
Cesare Battisti devait retourner en Italie il y a longtemps.
C'erano stati dei processi.
Des procès avaient
era
eu
stato
lieu.
Condannato per assassino.
Il avait été condamné pour meurtre.
Et fatti di cui lui mai si è pentito.
Il s'agit de faits pour lesquels il n'a jamais montré de repentir.
Et in questo senso molti non tutti, ma molti
et
intellettuali
dans ce sens, certains intellectuels français, pas tous, ils n'ont rien compris de l'Italie des années 70.
Alcuni terroristi sono stati
certains terroristes ont été accueillis en France
et si è pensato che in Italia
en croyant
ci fosse un regime
qu'en Italie il y avait un système autoritaire et répressif au pouvoir.
Ma questo vuol dire non aver capito niente.
Mais cela signifie ne rien
70.
Avoir compris de l'Italie des années 70.
I terroristi rossi,
les terroristes rouges
hanno ammazzato
ont
tante
tué
persone indifese,
beaucoup de gens inermes
inventandosi
en
una
inventant
guerra che non c'era.
Une guerre qui n'existait pas.
Si sono inventati
ils
da
ont
soli
inventé
una
eux-mêmes
guerra che non c'era.
Une guerre qui n'existait pas.
Di questa guerra
et au nom de cette guerre,
poliziotti,
ils ont tué des policiers, des magistrats, avvocati, des avocats,
operai,
des ouvriers,
des carabiniers.
Ecco. Voilà.
Io su questo, non oggi,
sur cela,
nel 2019,
et pas maintenant en 2019,
ma
hein,
anche
mais,
alla fine degli anni,
mais
anche
également
40 anni fa,
il y a 40 ans,
ho sempre avuto una posizione
j'ai
molto,
toujours
molto
eu une position très précise et très nette.
Et la Francia non ha capito
la France n'a rien compris de ce qui se passait en Italie il y a 40 ans.
La dernière question, le prochain tournage?
Inizio a girarlo prestissimo.
Je commence très bientôt le tournage dans 3 semaines, jour pour jour.
È da un libro israeliano.
Il est tiré d'un livre d'un auteur israélien.
L'autore si chiama Escolnevo.
D'un livre d'Escolnevo.
Il libro si chiama Tre piani.
E le libro s'intitule Trois étages.
È una storia intrecciata di tre famiglie.
Il s'agit d'une histoire croisée de trois familles.
Che vivono tutte e tre nella stessa
palazzina. Qui vivent dans un même immeuble.
Il libro è ambientato a Tel Aviv.
Dans le livre, l'histoire se passe à Tel Aviv.
Il film sarà ambientato
et
in una
dans
città
le film,
italiana.
L'histoire se passe dans une ville italienne.
Et Nanni Moretti sera dans le film?
Sì, faccio una piccola parte.
Oui, oui, je vais jouer un petit rôle.
Un petit rôle, c'est fini d'être au centre.
È finito da quel dì.
Ben oui.
Et depuis le temps, c'est terminé.
C'était Nanni Moretti, un entretien réalisé lors de sa venue ici à Paris. Le film Santiago Italia sort en salle mercredi prochain.
Les gens quand ils sont les uns dans les autres, veulent-ils s'alléger de tous leurs tourments, veulent-ils se laver de toutes leurs fautes, veulent-ils retrouver la légèreté, ce moment rare où l'on flotte, où l'on pense enfin avoir trouvé le produit, le remède, le vaccin, l'antidote. Faire l'amour. Faire l'amour. En simulant au cœur mon premier jour, tout simplement, où en allant se jeter de tout du haut.
Quand ils sont les uns dans les autres, oui, c'était mieux sec sur France Inter. Il sera en concert à la salle Pleyel à Paris le 21 mars. Une programmation partouze de Jean-Baptiste Audibert.
Le nouveau rendez-vous.
Maintenant, c'est une fille, vous plaît. Vous pouvez faire ce son-là. Si elle ne réagit pas, accompagnez-le d'un geste. Viens voir. Viens.
Laurent Goumard.
Bon, allez, on passe à la démarche. Très souple, bondissant. Svelte, bien détendu. Bon, je vais vous montrer, suivez-moi.
Sur France Inter.
Mais oui, on va le suivre, Mohamed Hamidi, avec ce nouveau film, Jusqu'ici tout va bien. Vous resituez ce qu'on vient d'entendre?
En fait, c'est une séquence où Samy, donc, est joué par Malik Bentala, qui essaie de trouver une utilité dans l'entreprise de Gilles Lelouch, qui vient de s'installer à la Courneuve, surjoue un peu l'installation en banlieue, parce que lui, il veut se rendre utile, et donc, comme il ne sait pas trop quoi faire, il essaie de leur faire croire que voilà, les gens ont des attitudes un peu bizarres. Et donc, il a en face de lui, il fait un espèce de cours de banlieue, en fait, il est en face de lui.
Une sorte de one-man show.
Voilà, une dizaine de salariés à qui il dit, voilà, si vous voyez une jeune fille, faites ceci, attention à vos cheveux. Voilà, c'est une séquence assez drôle, c'est une espèce de cours de banlieue exagéré, on va dire.
Jusqu'ici, tout va bien, c'est l'histoire d'une petite entreprise qui a bien failli connaître la crise. On y suit Fred Barrel, c'est Gilles Lelouch, il est patron d'une agence de com à Paris, mais il subit un contrôle fiscal assez sévère, il faut dire qu'il a triché, et il doit, pour se mettre en règle avec ce qu'il a déclaré, délocaliser son affaire à la Courneuve. Le film raconte cette implantation qui fait peur aux employés. Heureusement, ils ont ce fameux guide, Samy, qui va leur apprendre les us et coutumes de la banlieue. Choc des cultures, braquage à l'envers, bande-annonce.
Vous devez à l'administration fiscale 1 750 000 euros.
Faut que je les paye.
On déménage.
Moi, je te suis au bout du monde.
La Courneuve.
Ah oui, quand même.
Je vous présente Samy qui a la gentillesse de nous faire visiter la Courneuve.
Elodie.
Samy.
Vous devez avoir au moins 4 nouvelles recrues dans la zone franche.
Ouais, j'ai besoin de monde là. Mais non, pas pour une bagarre, pour du travail.
Un DUT informatique, institut technologique, master en engineering informatique. Qu'est-ce que vous faites chez Mano, je comprends pas.
Bah, c'est les seuls qui m'ont pris en fait. J'ai envoyé des centaines de CV, mais à part les stages, j'ai rien trouvé.
Hey, attends, on voit. Comme t'as trouvé du travail, t'as acheté des chemises.
Ah, passe pas.
Rouge, bleu, jaune, vert.
Quand on est arrivé ici, on pensait que ce serait compliqué. Enfin, moi, je pensais que ce serait compliqué. Et finalement, c'est formidable.
La cohabitation, ça se passe bien?
Oui. Fais juste attention à ne pas laisser traîner nos affaires, quoi.
Eh ben oui, jusqu'ici tout va bien, une comédie enlevée, bien écrite, qui joue avec les clichés des bobos, avec les clichés des banlieues. Au départ, comment vient l'idée de ces boîtes fantômes qui, pour toucher des abattements de charges fiscales, exonération d'impôts, racontent qu'elles sont basées en banlieue?
Ça vient d'une constatation, d'une observation. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu à Bondy très longtemps, 45 ans, pour dire... pour pas dire toujours. Et effectivement, j'ai un copain qui avait sa boîte dans une zone franche, son entreprise dans une zone franche. Et quand j'y suis allé une fois, je me suis aperçu que beaucoup d'entreprises avaient des boîtes aux lettres, mais n'y étaient pas réellement installées. Et c'est là que j'ai compris, et c'était il y a un petit moment déjà, parce que je crois que maintenant les contrôles se sont intensifiés, ouais, qu'il y avait pas mal de boîtes qui faisaient des espèces de sociétés écrans pour bénéficier d'un certain nombre de subventions, mais qui s'installaient pas vraiment dans les quartiers.
Vous êtes né à Bondy pendant 45 ans. Vous vivez où maintenant alors ?
Maintenant, j'habite Porte de Bagnolet.
Vous avez traversé le périph ?
J'ai un peu traversé le périph, c'est vrai. Ouais. Depuis un an, tout juste.
Et alors ?
Bah écoutez, je me suis mis le plus proche de Bondy parce que c'est important pour moi et mes enfants qu'on puisse
rejoindre
la famille pas loin. Et écoutez, ça se passe bien. Je l'ai fait vraiment pour des raisons professionnelles. C'est vrai que j'en avais un peu marre de faire l'aller-retour, de rentrer en scooter le soir ou en RER ou en Uber. Et donc voilà, j'ai déménagé il y a un an.
Est-ce que ça a été vécu comme une trahison ?
Pas vraiment, je crois qu'après 45 ans de bons et loyaux services, on peut partir tranquille. J'ai fait pas mal de choses à Bondy. J'y suis encore beaucoup, je fais pas encore partie du Bondy Blog, je fais encore beaucoup de choses à Bondy. Non, c'est pas une trahison à cet âge-là, c'est-à-dire qu'il faut bien dans sa vie pouvoir aller chercher d'autres horizons. Et là, j'avais besoin de ça professionnellement. Quoi.
Alors vous êtes né à Bondy, quelles erreurs à ne pas commettre quand on fait un film sur le choc des cultures, vous qui avez été, je le rappelle aussi, cofondateur du Bondy Blog ? Et prof d'éco.
Prof d'éco à Bobigny, ouais. Pendant très longtemps. D'ailleurs, je salue mes collègues. Non, les erreurs à pas commettre, je pense, c'est d'être méchant. C'est d'être méchant gratuitement et puis de ne pas être en empathie, en connaissance avec son sujet. Moi, j'essaie de raconter des choses avec dérision, avec auto-dérision aussi. Moi, je pense qu'à force d'éviter un certain nombre de sujets, on rit de choses qui sont plus ou moins moyennes et un peu comme ça, un peu plates et un peu molles. Alors que moi, je crois qu'il faut aller parfois titiller les gens sur leurs défauts. C'est très important, l'autodérision. Et je trouve qu'il faut aller chercher le meilleur de chacun et il faut dénoncer le pire de chacun.
Alors, le pire de chacun, ça serait quoi ? Du côté de part et d'autre du périphérique ?
Ouais, disons, je préfère dire le meilleur.
Le meilleur, on va le connaître, non, le pire.
Le pire, parfois, c'est une espèce de mythomanie. C'est le cas de Samy, par exemple, qui raconte parfois un peu n'importe quoi pour aller vite. Le pire, ça peut être chez les bobos parisiens, une forme de décalage avec la réalité, d'une espèce de d'entre-soi, de vivre dans un cocon. Voilà, c'est ce genre de choses que j'essaye de montrer et que j'essaye de dénoncer.
Et en vivant dans le cinéma, on ne vit pas dans l'entre-soi ?
Non, moi je pense pas parce que je vous dis.
Vous êtes déjà installé quand même maintenant dans le milieu du cinéma français.
Ça fait quelques années. Ouais. J'ai arrêté d'enseigner en 2010. C'est pas si vieux. Mais c'est vrai que j'essaie de pas rester dans l'entre-soi. Alors ça, bah, écoutez, moi je suis arrivé assez tard dans ce milieu et donc j'essaye de continuer à avoir ma vie normale que j'ai toujours. Je vais au marché de Bondy tous les samedis matins. Et voilà, disons que moi je pense qu'à un certain âge, on a des habitudes bien ancrées.
Un mot sur le titre, et pour ce mot, je voudrais qu'on écoute ça, bien sûr.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages.
Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Bien sûr, un extrait de La Haine. Le titre « Jusqu'ici, tout va bien » est un hommage direct à cette séquence de ce film de milieu des années 90. Pour quelle raison fallait-il, dans cette pure comédie, rejouer quelque chose qui s'était passé dans les années 90 au cinéma?
Non, je le rejoue pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je cherchais un titre pendant longtemps. Le film s'est appelé Zone Franche, en fait. Et on a tous trouvé, avec les distributeurs, avec les producteurs, avec les acteurs, que c'était un titre un peu froid, un peu clinique, un peu administratif. Et on a cherché un titre. On a fait beaucoup de brainstorming. Et quand ce titre est sorti, on cherchait avant tout une expression un peu plus légère et qui traduise bien l'état d'esprit de Gilles Lelouch, Fred Bartel dans le film, qui est un opportuniste jusqu'au boutiste qui essaye de se démerder pour sauver sa boîte, quoi. Et on a trouvé Jusqu'ici tout va bien. Et lorsqu'effectivement on a vu que il y avait cette double lecture, cette référence à Laine, on était très heureux parce que c'est quand même un film très important sur la banlieue. Je pense que c'est l'un des meilleurs qui a été fait par Mathieu Kassovitz. Et effectivement, ça fait partie des choses qui ont permis un peu de changer le regard sur la banlieue.
Vous vous rappelez justement quand vous aviez vu ce film à l'époque?
Je me rappelle très bien, ouais, je me rappelle très bien. C'était en 95, je crois, que je l'ai vu au cinéma. Ouais, c'était un film événement pour nous. Et c'est la première fois qu'un film était fait sur la banlieue par des gens de notre génération. Avec la musique qu'on écoute, avec le parler qu'on avait, en montrant des choses qui étaient assez réelles. Et c'était une vraie claque, ce film. Je me rappelle que c'était la découverte d'un grand réalisateur et de grands acteurs aussi. Donc c'était vraiment un bon moment, quoi.
Vous vous refusiez les séries, les séquences, les punchlines du film?
Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que je ne suis pas, moi, je suis pas ce genre de spectateur, en fait. Je l'ai vu 2-3 fois, le film, voilà, mais ça m'a suffi pour en garder un très grand souvenir. Après, moi, j'aime bien parfois vivre avec mes souvenirs des films et pas les voir trop souvent.
Vous avez tourné à La Courneuve, c'est là où se passe d'ailleurs l'action du film, mais pas à Bondy. Alors qu'on aurait pu penser, c'était parfait de tourner à Bondy.
Ça aurait été parfait, mais en fait, c'est tout simplement pour des raisons de narration. Voilà, quand on fait un film, on a la prétention de toucher toute la France. Et il se trouve que Bondy, sur la carte de France, c'est pas aussi facilement identifiable que La Courneuve, qui est pour moi l'une des villes. Pour moi qui ai grandi en banlieue dans le 93, il y a vraiment des villes qui sont fortes dans le 93, c'est Saint-Denis, La Courneuve, Aulnay, Clichy-sous-Bois, qui sont vraiment considérées comme des villes de banlieue. Et effectivement, les 4000, la cité des 4000 où on a tourné, c'est vraiment un quartier emblématique de cette banlieue des années 70.
Justement, quoi. Qu'est-ce qu'elle avait de particulière, cette banlieue, pour qu'elle serve aujourd'hui de décor
alors,
de ce film?
Elle a quelque chose déjà graphiquement. C'est quand même, graphiquement, on pose sa caméra devant la cité des 4000 et on voit ces bars qui restent. Il n'en reste pas beaucoup, un certain nombre ont explosé. Donc déjà, au niveau cinématographique, c'est très intéressant. Et puis l'autre intérêt de La Courneuve, c'est vraiment cette zone, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle la première couronne, qui est en ce moment en train d'être une zone qui accueille les bobos, toutes les entreprises qui n'ont plus de place ou pour lesquelles le mètre carré est trop cher à Paris, qui viennent s'installer à Aubervilliers, La Courneuve, Saint-Denis, Montreuil. Et effectivement, il y a donc une rencontre qui n'avait pas lieu avant entre les salariés parisiens et les habitants des quartiers.
Et alors ça se passe comment?
Ben, ça se passe plutôt bien. J'ai l'impression que il y a eu des craintes. Je sais que beaucoup d'entreprises qui ont annoncé à leurs salariés qu'ils allaient déménager donc autour de Paris, à Aubervilliers par exemple, j'ai eu des exemples là-dessus, ont parfois eu des réactions bizarres, parfois eu des démissions, des départs. Moi, j'ai l'impression que à partir du moment où on va s'installer dans une zone, alors là, c'est pas le terme péjoratif que j'utilise, mais c'est le terme géographique. Voilà, on fait avec et c'est ces endroits comme Aubervilliers, La Courneuve sont de plus en plus en train de se développer, de se parisianiser. On a vraiment l'impression que Paris, là, le Grand Paris, il est réel dans ces endroits-là parce que le métro arrive, les Parisiens arrivent, les entreprises parisiennes arrivent et ça se fond de plus en plus. Il ne reste plus que le périph' à faire sauter et puis on sera très bien.
Et quelle est la répercussion justement sur les gens qui vivent là-bas?
Moi, j'aimerais bien justement que les gens qui vivent à La Courneuve, à Aubervilliers, soient plus intégrés dans cet exode parisien vers la banlieue. J'aimerais bien qu'ils y soient un peu plus embauchés déjà pour commencer. J'aimerais bien qu'ils soient plus intégrés dans la vie économique. C'est pas encore complètement le cas. Moi, je pense que l'obligation géographique qui est faite aux zones franches, aux entreprises installées en zone franche, d'embaucher des gens du quartier est une bonne obligation, mais que c'est pas le meilleur moyen de fusionner les populations. Parce que moi, je trouve.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, C'est hyper circonscrit, en fait. Les zones franches, c'est vraiment 2 mètres carrés dans un quartier bien précis où on n'a pas spécialement envie d'aller, qui n'est pas desservi, qui est compliqué. Donc, je veux dire, à Bondy, la zone franche est dans un endroit impossible, quoi. Personne n'irait s'installer là-bas parce que, tout simplement, une entreprise a besoin d'une sortie d'autoroute, elle a besoin d'une gare. Et donc, mettre une zone franche à Bondy dans un endroit qui n'est pas accessible par les transports, c'est une bêtise, tout simplement.
Alors vous faisiez allusion donc à ces employés qui peuvent être recrutés sur place. Et il y a une séquence très très drôle d'ailleurs, une séquence de pure comédie, c'est les entretiens d'embauche pour devenir salarié de l'entreprise à La Courneuve. Des candidats qui ne sont pas du tout préparés à ce genre d'exercice, plus surréalistes les uns que les autres.
Ben, ça me faisait rire effectivement d'imaginer que Gilles soit obligé, Gilles, Sabrina, Ouazani et Malik Bentala sont obligés d'embaucher comme ça à la va-vite 4 salariés pour montrer qu'ils sont de bonne foi devant les inspecteurs du fisc et d'imaginer comme ça un recrutement sauvage. Ce qui m'intéressait de dire, c'est que avant tout, il y a beaucoup de candidats et beaucoup de gens qui cherchent du boulot parce que le taux de chômage, on le sait, dans les quartiers est 2 fois plus important que le taux de chômage national et qu'il y a des compétences aussi dans ces endroits. Donc à la fois, on a des profils comme Mariama qui a un bac plus 5 mais qui n'arrive pas à trouver de boulot et qui donc bosse au McDo en attendant. Et puis on a tout type de profils loufoques qui viennent essayer de gratter un poste, un boulot et ce qui donne des situations de comédie assez drôles. Voilà, ça me faisait rire. C'était un peu, c'est une scène qui nous a beaucoup fait rire, qu'on a tourné quasiment toute une journée. Je vous assure que si j'avais tout monté, j'aurais pu avoir une séquence de 12 minutes. J'en ai monté 4, c'est déjà énorme.
Mais c'est presque une séquence de sketch. On a l'impression d'être au Marrakech du rire.
On a beaucoup ri. C'est vrai qu'à l'écriture, on a beaucoup ri avec les co-auteurs, donc Khaled Amara, Michael Souhaité. On a beaucoup travaillé là-dessus. C'est vrai que moi, j'écris aussi de la punchline quand je fais des sketchs avec Jamel ou avec Malik ou au Marrakech du rire. Et c'est dans ce genre de scène qu'on s'en donne à cœur joie, quoi.
Vous étiez prof d'économie. Comment vous êtes arrivé au cinéma pour être réalisateur sans avoir fait l'école, la formation
Je suis un autodidacte de formation, moi. C'est-à-dire que j'ai fait formation autodidacte, j'ai passé le CAPED, puis l'agrégation en candidat libre. Mm-hmm. J'ai fait quelques passages dans le métier du journalisme quand on a créé le Bondy Blog. Et puis ensuite, j'ai voulu raconter une histoire. C'est comme ça que je suis venu à l'écriture. Et par cette histoire, j'ai rencontré Jamel qui m'a dit est-ce qu'on pourrait en faire un scénario. J'ai appris avec un grand scénariste qui s'appelle Alain-Michel Blanc, à faire mon premier scénario pour le film Né quelque part. Et ensuite, voilà, on m'a dit pourquoi tu le réaliserais pas. Et j'ai dit ok, comment on fait. Et puis là, j'ai commencé à lire, travailler, aller sur des plateaux, me renseigner, apprendre, et j'apprends encore d'ailleurs.
Vous aviez une appréhension quand vous avez tourné le premier film?
Énormément.
Vous vous souvenez du premier jour de tournage?
Bien sûr, je m'en rappelle encore. J'étais tremblant lorsque j'ai dit action. J'avais très peur. Bien sûr, fallait pas.
Vous
que aviez
peur de quoi? Parce qu'il y a les acteurs, il y a l'équipe technique.
Ben, c'est la peur de l'inconnu. Mais moi, je me suis toujours dit qu'il fallait avoir l'inconscience du débutant. Parce que je pense que plus on attend, plus on se met la pression et moins on est bon et moins on y va. Et moi, je pense que l'inconscience du débutant, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la vie. Ça m'a toujours sauvé. Quand j'ai passé l'agrégation, tout le monde m'a dit « mais t'es fou, ça se prépare, etc. » On prend les gens de l'école normale. J'ai dit « ouais, mais pourquoi pas tenter ?» Et je l'ai eu du premier coup. Et pour le cinéma, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai fait le nécessaire. Et puis, c'est vrai que rétroactivement, quand j'y pense, je me dis « mais je suis fou d'avoir fait ça, d'avoir fait un film comme ça, avec Jamel Debbouze, avec au Maroc, je n'avais jamais fait ça avant, je n'avais même pas fait de court-métrage,
ah oui,
j'avais
ça.
Juste fait de la scène, j'avais fait des petits sketchs, j'avais traîné sur les plateaux, on va dire. » Mais c'était une forme d'inconscience, mais j'étais très bien encadré, très bien... j'avais un bon premier assistant, j'avais un bon chef opérateur, j'avais une bonne prod autour de moi qui m'entourait, et avec un peu de travail on y arrive, avec beaucoup de travail en vrai on y arrive.
Alors il y a une comédie dramatique, il y a une comédie sociale, aujourd'hui on est dans la comédie pure, et le prochain ça sera quoi?
Le prochain, je vais revenir à la comédie sociale un peu plus. Alors le prochain est déjà tourné, en fait, parce qu'en fait j'ai tourné 2 films l'an dernier pour des raisons de calendrier. Je les ai écrits. La vache était en 2015, ouais. Et donc pendant 3 ans j'ai écrit 2 scénarios. Et il se trouve que j'ai tourné les 2 en 2018. Donc jusqu'ici tout va bien là, qui sort la semaine prochaine. Et puis j'ai aussi tourné un film sur le foot féminin, un film social en fait sur une petite équipe de province qui ce sont une équipe de joueurs masculins qui s'embrouillent avec l'arbitre, qui sont suspendus, ce sont leurs femmes. Leurs filles, leurs sœurs qui prennent leur place sur le terrain pour finir le championnat.
C'est pas la première fois que vous vous attaquez à ce genre de sujet?
Non, moi j'aime bien m'attaquer à des sujets. Alors j'avais vraiment envie de faire un film autour de l'univers féminin parce que je trouve que j'ai 6 sœurs Et je trouve que je ne leur ai pas assez rendu hommage dans mon cinéma, donc je voulais faire un film pour elle.
Vous aviez quelle place dans cette famille ?
Je suis le dernier. Je
suis petit. Bah alors, ça devait être dément. Entre votre mère et vos sœurs.
Non, non, mais alors, j'ai deux autres frères, hein, on est neuf, on est très nombreux, oui, mais je suis quand même le dernier. Mais c'est vrai que moi, j'ai été beaucoup élevé par mes sœurs, et on va dire que ma culture littéraire, cinématographique, artistique d'une manière générale, elle m'a été transmise par mes sœurs. C'est vrai que mes sœurs m'emmenaient, parce que il se trouve qu'elles m'emmenaient à la bibliothèque, elles m'emmenaient au cinéma, elles s'occupaient de moi, quoi. Et donc j'ai beaucoup profité de ça, donc voilà, je leur devais bien ça.
Elles sont jamais dans vos films ?
Non, à l'image, non, mais elles le sont par plein de choses, par des répliques, par des textes, par des allusions, par des prénoms, des fois.
Qu'on peut retrouver ?
Ouais, bien sûr, elles sont présentes, mais c'est vrai qu'elles ne le sont pas vraiment... physiquement, mais ça, chacun son métier, j'ai envie de dire.
Merci Mohamed Hamidi. Je rappelle que le film Jusqu'ici tout va bien, ça sortira en salle mercredi prochain, puis on attend le prochain dans quelques mois, manifestement, ouais, parce qu'il est déjà tourné.
Non, il est tourné, mais il est pas terminé. Je suis en post-prod. J'espère qu'il sortira peut-être fin 2019. Je ne sais pas encore.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Vous pourriez mettre un disque ?
Oui.
Rendez-vous.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Je vais m'en dire des nouvelles de celui-là.
La chronique.
Oui.
Oui, la fréquence solo. Avec vous, Soro Solo, puisqu'on est lundi, on vous retrouve au programme ce soir. Un musicien camerounais, Gino Sitson. Signe particulier, c'est un chanteur de Makossa et de Bikutsi. Qu'est-ce que c'est ?
C'est vrai que le Makossa et le Bikutsi sont les genres camerounais les plus internationalisés, médiatisés à l'international. Mais parce que Manu Dibango, avec son soul Makossa, a vraiment explosé le Makossa sur la planète. Et les têtes brûlées, avec leur succès, ont quand même bien tourné en Europe et même fait une percée aux États-Unis, à New York.
Alors, qui est ce Gino Sitson ? Pas très connu ici en France.
Non, pas du tout particulièrement connu en France, mais en tout cas, il est salué aux États-Unis où il habite depuis 15 ans, et notamment par le magazine le Los Angeles Times. Et Gino Sitson, j'ai envie de dire qu'il est inclassable. Il est même singulier comparé à la grande majorité des artistes camerounais. Il est vocaliste et sa création musicale, pour ne pas dire ses créations musicales, mettent un accent particulier sur les propriétés expressives de la voix.
Et pas que sa voix,
parce qu'il a aussi adopté une technique qu'on trouve, qui est de plus en plus courante aux États-Unis, c'est le beatbox, le body beat.
Le body beat, c'est-à-dire qu'il travaille avec,
il travaille avec son corps,
il fait des percussions avec son torse, comme exactement. Vous venez de faire.
Donc lui aussi, son corps lui sert de percussion. Et l'ensemble de sa musique, c'est vraiment une association de jazz, de gospel, de blues, de polyphonie traditionnelle africaine, c'est tout ça. Ça, c'est Echoes, qui ouvre l'album de Echo Chamber, le nouvel album de Gino. Et visiblement, quand on écoute ce titre, il est inspiré des polyphonies pygmées des forêts centrales d'Afrique centrale. Et aussi, on constate qu'il est marqué par le chant des chorales.
Alors, quelle est la formation de Gino Sitson ? Est-ce que ses parents étaient musiciens pour avoir travaillé à la fois sa voix et son corps dans la musique ?
On peut dire que ses parents étaient musiciens, vu que sa mère était chanteuse dans la chorale de l'église de la Cité. Et son père, à la maison, jouait de la flûte, mais il écoutait aussi des chants grégoriens, en plus du blues, du jazz, des musiques traditionnelles, et tout ça, des musiques chantées a cappella.
Et à partir de quand il a commencé à jouer véritablement avec sa voix et avec son corps ?
Et c'est quand il a décidé de devenir artiste et qu'il a voyagé en France pour venir apprendre sur différentes scènes, notamment les scènes de jazz à Paris, pour développer sa musique. Et son œuvre est marquée par son environnement, l'environnement familial. Et lui et son frère aîné, par exemple, s'amusaient à faire des sons avec leur corps et leurs jouets. Et avant de se lancer dans la production musicale, la production discographique, Gino Sitson a obtenu un doctorat en musicologie à l'université Paris-Sorbonne. Et tous ses albums sont le résultat de ses recherches vocales et des expériences de la scène parisienne et celle de New York.
Back at a party, 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 oh, back at a party, 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 oh, back at a party.
qu'elle est partie, partie. Maintenant que tu as mon team, va-va'en, tu me dis que tu se te couilles. Maintenant que tu as mon team, va-va'en, tu me goulis, tu se te couilles, te couilles. Mais va qu'elle est partie, 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 oh, va qu'elle est partie, partie.
Makalapati est extrait de Echo Chamber, le 8e album de Gino Sitson qui va paraître le 22 mars. Et l'artiste viendra le présenter en concert le 10 avril au studio de l'Ermitage dans le 20e à Paris.
Merci Soro Solo, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et tout de suite, on se quitte avec le Benjamin de la catégorie Album Rap aux dernières victoires de la musique. Vous le connaissez ? Non. Il s'appelle Giorgio, Soro Solo. Giorgio.
Regarde ces apparts qui s'illuminent, combien de ces familles se font du mal. Regarde le petit con du square, la pousse le plus possible à fin du match. C'était au-delà de mes limites, les cris de mes parents et le son du casque. Repêché par la musique, le modèle familial au fond du lac. Est-ce que nos mères ont le salaire qu'elles méritent? Est-ce qu'on est les gosses qu'elles rêvaient d'avoir? Quelle vie de devoir laver les vitres, de ramener du linge neuf au parloir. Très tôt elle côtoyait les flics, sur toi et ton frère elle a élevé la voix. Plein de fois elle nous a vu rentrer Yves, t'étais trop bourré, tu l'appelais papa. Ma mère c'est la même et je l'ai trop fait saigner. Trop peu aidé, j'étais jamais là. Je préférais la cité, les microbes de la favela. Tester ce que j'avais dans le ventre, avec des mecs qui avaient plus rien à perdre. Certes je n'ai pas de leur monde, mais qu'est-ce que j'aurais fait pour un salaire. Y'a tout qui se mélange dans ma tête et mon corps. L'amour, la haine, mes raisons et mes torts. Mes joies et mes peines. Fini l'époque où j'étais plus jeune et je courais dehors. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. À 19 ans, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. J'étais dans le froid sans savoir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. Qu'est-ce qu'on va faire de nos actes manqués? Eh les gars, je suis désolé pour toutes les fois où je me suis absenté. Ouais c'est ça, j'ai pensé à vous mais j'ai pas rappelé. M'en voulais pas, entre le bien et le mal je me balançais. Et en dessous y'a le vide, le tribunal. On sait bien que nos valeurs sont discutables. J'ai vite lâché les cours, les diplômes c'était pas pour moi. Les études c'était pas pour moi et je serai jamais leur allié comme Saruman. Je préférais le rap et découvrir l'amour. Je voulais New York, c'est Plégond et ses tours. J'ai eu le TGV et les allers-retours. Parents divorcés, du sang sur mon parcours. Y'a tout qui se mélange dans ma tête et mon corps. L'amour, la haine, mes raisons et mes torts. Mes joies et mes peines. Fini l'époque où j'étais plus jeune et je courais dehors. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. À 19 ans, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. J'étais dans le froid sans savoir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. J'étais dans le froid sans savoir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir.
Le miroir, signé Giorgio dans le NRV, il sera en concert au Zénith de Paris le 15 mars, au Printemps de Bourges le 17 avril. Ça marche pour lui. Eh bien, le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver toutes et tous dans 15 minutes après le journal avec ça.
Qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a plus rien à perdre.
Les gilets jaunes sont très, très déterminés et ils n'arrêteront pas.
Gilets jaunes, on l'enlève ou on le garde? Le rendez-vous est pris. On va tout de suite.
Rendez-vous.